Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels.
Bonjour Geneviève Motard.
Bonjour, ça fait plaisir, merci de la belle invitation.
Eh ben, c'est nous qui vous remercions pour cet épisode spécial qu'on appellera « Pourquoi je suis CPA ».
Oui, exact.
Donc, avant qu'on parle de votre passé, comment vous êtes venu à devenir CPA, votre présent et votre futur, j'aimerais faire un petit point de présentation. J'ai utilisé ChatGPT et vous allez me dire si c'est pas trompé sur vous, d'accord ?
Vous me faites peur, là.
Alors, Geneviève Motard, certifiée Public Accountant, CPA. Elle est actuellement présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec, étant la première femme à occuper ce poste. Diplômée en comptabilité de l'Université Concordia et du programme de leadership de l'Université Queen's. Carrière, Geneviève Motard a débuté sa carrière au cabinet Ernst & Young, où elle a gravi les échelons jusqu'à devenir chef d'équipe senior au sein du groupe des services de certification. Elle a également été impliquée activement dans divers comités et initiatives au sein de l'Ordre des CPA. Au niveau politique, Geneviève est reconnue pour son leadership et son engagement à promouvoir la profession au Québec, jouant un rôle clé dans l'évolution des standards professionnels et de l'adaptation de la profession aux nouvelles technologies et défis du marché.
Waouh, c'est une belle introduction. Alors, il a, j'espère,
allez-y,
largement raison, sauf sur le titre. CPA, c'est comptable professionnel agréé chez nous, donc c'est pas Chartered Public Accountant comme aux États-Unis, bien que c'est la même nomenclature. Donc, on est des comptables professionnels qui font un métier similaire, mais pas tout à fait le même que les experts comptables.
Alors, à quel moment de votre vie vous êtes dit « je vais devenir CPA, Geneviève »
J'aime bien vous raconter des histoires, si ça vous,
allez-y.
Si ça vous plaît, je vous raconte une histoire. Moi, je viens d'une famille de gens en santé. En fait, mon papa était médecin, ma sœur est devenue médecin, ma mère était infirmière. Et je ne me voyais pas vivre toute ma vie dans les hôpitaux un peu drabes au Québec, avec tous les troubles du système de santé. Et je n'avais, je vous avoue, absolument aucune idée de ce que j'allais faire. Et donc, j'ai fini l'école secondaire, qui est le lycée. J'ai fait ensuite le cégep. Alors, je suis rentrée au Québec, on dit un bac en administration des affaires, en me disant, ben il y a quelque chose peut-être qui va finir par me plaire. Et j'ai eu mon premier cours de comptabilité, et je vous jure, je suis tombée en amour direct avec la comptabilité. Ça a été un coup de foudre. Ça fait rire les gens quand je dis ça, mais c'est vrai. C'est une petite dame qui, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt grande. C'est une petite dame qui mesurait à peu près 4-5 pieds, qui est rentrée et qui m'a ouvert les yeux. Elle s'appelait Eleanor Verbin. Elle est décédée aujourd'hui. Et j'ai eu le coup de foudre pour la comptabilité. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. Et j'ai vu comme dans... Vous savez, le film « Le magicien d'Oz », là, quand on voit la route jaune là, qui mène au chemin. Et donc, j'ai vu ma route jaune devant moi et j'ai dit « c'est ça que je vais faire ». Et je blague pas que ce soir-là, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari « je vais être dans le temps comptable agréé, maintenant comptable professionnel agréé ». Il m'a regardé un peu tout croche, dit « t'es folle ». J'ai dit « non, c'est ça que je vais faire ». Il dit « bon, ben on va aller en discuter au restaurant ». Et donc, on est allé au restaurant chinois du coin. Vous savez, les restaurants où c'est des napperons sur la table en papier, là. Quand on est étudiant et on n'a pas beaucoup de moyens, on va au restaurant chinois. J'ai pris une napperon, je l'ai tournée à l'envers, j'ai pris un crayon et j'ai écrit mon plan de match pour devenir CPA. Et ça, c'était un plan de match de 5 ans et j'ai suivi mon plan de match. C'est comme ça que je suis devenue comptable professionnel agréé. Donc, c'était un coup de foudre, exact.
Donc, pas du tout dans la médecine, hein?
Pas du tout dans la médecine. J'ai beaucoup de respect pour ce que ma sœur fait, ce que mon père faisait, il est décédé maintenant, mais je ne me voyais pas dans les hôpitaux avec tous les enjeux qu'on connaît de financement des hôpitaux. Je ne me voyais pas marcher dans ces corridors drabes et voir des gens dans la souffrance tous les jours. Je trouve que dans notre métier, on aide quand même les gens. C'est un métier quand même dans l'aide. Je considère que c'est un métier dans l'aide, mais qui est quand même plus joyeux que le milieu hospitalier.
C'est vrai. Donc, ça y est, on a pris la décision, on a marqué sur le petit bout de table, on est parti pour faire CPA. Bah, comment ça s'est passé, ce moment, ces 5 ans, jusqu'à avoir le diplôme?
Ouais, ça a été difficile. Bon, c'est quand même un métier qui est exigeant, hein. Je pense que personne ne s'engage dans cette voie en disant que ça va être facile. Mais j'avais mon but en tête. Je suis quand même assez un peu entêtée. Ceux qui me connaissent savent que quand j'ai une idée dans la tête... Et j'aimais l'idée d'avoir quelque chose qui était très structuré. Moi, j'ai besoin de structure, donc c'était un diplôme de premier cycle, un diplôme de deuxième cycle, un stage, un examen. Donc, j'ai suivi mon parcours de façon très, très planifiée. Dans ce temps-là, il y avait quand même le métier, le marché du travail était quand même bien. Donc, en sortant de l'école, j'ai eu quelques offres. Et je suis rentrée en cabinet et donc j'ai fait tous les heures pour devenir CPA ou CA dans le temps. Et pendant ce temps-là, mon mari s'est dit « Bon, mais t'es jamais là, je vais faire mon MBA. » Et donc Philippe et moi, on a étudié en même temps, lui pour faire son MBA, moi pour faire mon CPA. Mais ça fait qu'on s'est un peu coaché, un peu fait équipe ensemble pour étudier parce que c'est quand même des études assez longues. Mais ça a été le bonheur, ces années-là, parce qu'après, quel privilège. Et si vous m'auriez dit à ce moment-là que j'allais être présidente de l'Ordre, je vous aurais dit, vous êtes fou. Je vous conterai l'histoire après. Mais donc, ça a été des années d'études intenses, mais avec le résultat, l'examen, quand on passe, je me rappelle encore Philippe, mon mari, qui riait quand j'ai passé. Et voilà, ça a été des années super.
Ça a été un coup de foudre, vous avez dit, mais ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où on se pose la question, est-ce que je fais le bon choix, des moments durs aussi?
Oui, c'est sûr. Oui, parce que, c'est des longues études, c'est des longues heures. Et là, je me vieillis en disant ça, mais dans mon temps, il n'y avait pas tant de femmes que ça. Hein? Bon, il y en a maintenant. Il y en avait au niveau des études, mais dans les cabinets, quand j'ai rentré, des femmes associées, il n'y en avait pas tant que ça. Hein? Celles qui étaient là... Je suis pas sûre qu'on les regardait trop comme modèles. Elles n'avaient pas beaucoup de vie familiale et tout ça. Tu sais, c'était pas un métier où c'était facile de concilier, d'avoir une vie personnelle, avoir des enfants, le plan de vie que j'avais avec Philippe. Donc, oui, c'est sûr qu'on se pose ces questions-là. Mais je vais vous faire rire en disant ça. Je me suis toujours fait une fierté d'un peu casser les modèles, casser la boîte dans laquelle il fallait toujours rentrer. Et donc, j'ai dit, bien, si quelqu'un va réussir à un peu challenger ses façons de faire, ses façons de travailler, ses façons d'être envers les femmes, bien, ça va être moi. Et ma sœur fait exactement la même chose en médecine. Hein? Ma sœur, elle est chirurgienne orthopédique oncologue, elle mesure 6 pieds 4, puis elle est pas ce que vous pensez d'une chirurgienne. Donc, on dirait les sœurs motards, on s'est un peu donné cette mission-là de casser l'image que les gens font de ce que les gens pensent devrait avoir l'air d'une comptable ou d'une chirurgienne. Mais oui, c'est sûr qu'on se questionne, mais j'ai réussi quand même à casser ces modèles-là, à challenger, puis à me tailler une place qui finalement, c'est pas si mal, finir présidente de l'Ordre.
Je vais vous poser une question, même si j'ai déjà la réponse. Est-ce que vous avez un gros caractère pour faire face, du coup, à ces situations où vous disiez qu'il y avait peu de femmes? Du coup, il a fallu peut-être forcer votre place dans un milieu de beaucoup d'hommes, où c'était dur, où on demande beaucoup d'exigences?
Oui, je pense que ça prend en fait trois choses. Moi, je vous dirais, dans tous les métiers qu'on fait dans la vie, il faut avoir trois choses. Et si on n'a pas ces trois choses-là, c'est difficile d'avancer. Peu importe notre caractère. Oui, est-ce que ça m'a aidé d'être un peu fonceuse puis un peu têtue? Probablement. Mais ça prend trois choses. Ça prend, en premier, une organisation qui respecte vos valeurs. Et travailler dans une boîte où vous n'allez pas valoriser dans ce qui est important pour vous, c'est très difficile. Donc, je ne veux pas dire c'est immuable, mais une organisation qui n'a pas des valeurs de respect de votre vie familiale, qui n'a pas des valeurs d'équité, par exemple, de homme-femme, c'est difficile. Donc, vous devez travailler dans une organisation qui a les mêmes valeurs que vous et où la personne pour qui va travailler, sa job, c'est de vous élever, pas de vous écraser. Deuxièmement, il faut travailler dans une boîte qui a la même vision que vous pour le futur. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui est important? Parce que dans nos métiers, des fois, le quotidien est très dur, puis il ne faut pas perdre de vision le long terme. Donc, il faut avoir les bonnes valeurs, avoir la même vision, et il faut faire confiance à la personne qu'on a au-dessus de nous. Qu'on soit jeune comptable qui rentre dans une boîte ou qu'on soit associé, on a toujours quelqu'un au-dessus de nous, à peu près. Et il faut faire une confiance à peu près aveugle à cette personne-là que sa job, c'est de vous élever et de vous faire progresser. Sans ces trois choses-là, peu importe notre caractère, c'est très difficile de réussir. Et moi, j'ai toujours pris des décisions délibérées de travailler dans des endroits pour des gens qui respectaient ces trois choses-là.
Est-ce qu'il faut oser aussi demander, quand on est jeune, mais on n'ose pas?
Ouais. Oui, il faut oser. Puis les femmes, on a un défaut d'essayer de tout analyser avant de prendre des décisions. Hein, les femmes, nous, pour prendre une décision, il faut regarder toutes les cases. Puis est-ce que j'ai une... Il faut pas trop se poser de questions des fois. Si, moi, je l'ai fait dans ma vie, quand je suis partie de cabinet, je suis allée à travailler à l'équivalent du H3C français qui était le CCRC. Et après, pour devenir présidente de l'Ordre, avec le recul, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. On n'a vraiment aucune idée dans quoi on s'embarque. C'était des jobs bon, qu'on connaît un peu de l'extérieur, mais je me suis assurée d'avoir les trois choses dont je vous disais tantôt. Oui, c'est des boîtes qui respectent mes valeurs. Oui, j'ai une vision de où on s'en va. Et oui, j'ai une confiance au CEO, dans le temps, ou au président du conseil. Alors, il ne faut pas trop se poser de questions. Si on a les trois choses que je viens de vous discuter avec vous, peu importe où on va être, on va réussir. Je pense que les femmes, des fois, ont tendance à vouloir essayer de remplir trop de cases. Mais à la fin, c'est pas nécessaire d'avoir tous les cases. C'est nécessaire d'avoir des équipes autour de nous qui vont vous aider à remplir les cases.
Bon, vous êtes CPA. Vous faites votre petit bout de chemin. Et à un moment de votre vie, vous dites, bon, je vais devenir président de l'Ordre des CPA du Québec. Comment c'est venu sur la table, ça?
Alors, c'est une autre histoire. Si vous permettez, je vous la compte. Jamais c'était sur mon radar. Je vous le dis bien ouvertement. Moi, j'étais donc l'équivalent du H3C français, qui est le CCRC au Québec, au Canada. J'étais bien, je faisais mon petit bout de chemin. Et là, j'ai une chasseur de tête, on dit, une chasseur de tête, un recruteur qui m'appelle et me dit, tu sais, Daniel McMahon, donc mon prédécesseur s'en va, oui, je sais, il cherche un successeur, oui, je sais. Et je pense que la chasseur de tête m'appelle pour que je lui donne des noms. Et donc, elle me vend sa salade, puis je l'écris, je l'écoute à peu près, puis bon, à la fin, elle me dit, et là, je dis, OK, Nathalie, je vais te donner deux, trois noms. Mais elle dit, non, je t'appelle parce que le conseil veut que ça soit toi. Là, j'ai dit, quoi? Elle dit, oui, le conseil te connaît bien. De par mon métier, je les avais inspectés. Hein, bon. Ils disent, ils veulent que tu te lances dans le processus. Faut que vous vous mettiez dans le contexte. Mon prédécesseur était un homme de 65 ans, académique, un homme qui avait un patrimoine religieux, donc qui avait aussi un métier de vicaire. Donc et là, c'est Geneviève Motard qui a 40 ans, qui est une jeune femme, qui est un peu fonceuse, qui est complètement, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Daniel, c'est complètement différent comme profil. Et là, j'ai dit à la chasseur de tête, « T'es sûre que c'est ça que l'Ordre veut? » Et elle me dit, « Oui, ils veulent du changement. » J'ai dit, « Nathalie, il y a du changement, puis il y a du changement. » Elle m'a dit, « Oui, viens faire l'entrevue. » Rien à perdre. Je dis, « Bon, quand même, c'est flatteur de se faire appeler. » Alors, je vais faire l'entrevue. Et j'arrive là avec aucune attente, aucune fausse prétention. Et là, ils me disent, « Ben oui, on veut un changement et on pense que c'est toi. Pourquoi? » Et là, ils m'expliquent. Et ça m'a pris un petit bout de temps de m'assurer que j'avais les trois choses dont je lui ai mentionné, valeur, vision et la confiance. Et donc, c'est comme ça. Ça a été un immense privilège. Je me suis fait approcher. Mais ça a été une surprise. À la fin, j'ai bien compris comment je pense que oui, c'était un bon fit, comme on dit en bon anglais, entre le virage que l'Ordre devait faire et mon arrivée. Mais jamais j'avais cette prétention-là à ce moment-là.
Et vous n'êtes pas dit peut-être la marche est trop haute ou c'est pas pour moi ou j'ai peur?
Alors, vous savez, quand je vous dis les femmes, on essaie de cocher toutes les cases.
Oui.
Là, alors, il y avait certaines cases que je n'avais pas. Et ce que j'ai fait, je connaissais bien à ce moment-là le président du conseil. Et je suis allée dîner avec lui, déjeuner avec lui à la française, et je lui ai dit, Alain, il est ici au congrès d'ailleurs, je lui ai dit, Alain, si c'est moi que tu veux, voici ce que j'ai, voici ce que j'ai pas. Et ça, vous êtes fort confiant que j'ai pas ces compétences-là. C'est-à-dire, j'en ai à un certain niveau, mais la marche était quand même haute entre mes fonctions au CCRC et à l'Ordre. Et j'ai dit, donc, vous êtes conscient de ça au conseil. Moi, j'arrive ici, j'ai aucune fausse prétention. Je ne vais pas te dire que je les coche toutes les cases, je ne les casse pas. Et j'ai dit, voici où on s'en va. Voici, je pense, le virage qu'il faut prendre. Et j'ai dit à Alain, si ce n'est pas ça que vous voulez, ça me va très bien. Vous prendrez quelqu'un d'autre. Si c'est moi que vous voulez, voici ce que vous allez avoir. Et Alain me dit, on le sait que tu ne coches pas toutes les cases. On le sait, c'est délibéré de notre part, mais il dit, tu as celles qui sont les plus importantes. Et celle que tu n'as pas, tu as une équipe extraordinaire à l'Ordre qui va t'aider. Donc, l'aspect que j'avais moins, c'est toute la gestion d'une boîte qui est assez complexe, la gestion opérationnelle, de personnel, de conventions syndicales chez nous. Tout ça, j'avais ça à petite échelle. Là, j'héritais d'une force. J'ai 220 employés, donc c'est une plus grande force. Et ça, je ne l'avais pas. Donc, mais j'avais un excellent chef des opérations qui, lui, m'a aidé qui m'a appris tout à faire la gestion. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, si je regarde le travail qu'on a fait, je suis très, très fière de ce travail-là. Mais c'est parce que j'ai eu une équipe extraordinaire qui m'a appuyée. Et malgré le fait que je ne cochais pas toutes les cases, j'ai été très transparente sur le fait que je ne les cochais pas toutes, mais que j'allais avoir une équipe qui allait m'aider à compenser.
Je me pose une question. Est-ce que votre mari a été important à ce moment-là, pendant cette prise de décision? Et la seconde question, est-ce que vous n'êtes pas dit, je m'ennuie dans mon poste actuel, c'est peut-être le temps que j'aille sur ce nouveau poste aussi? Vous avez peut-être déjà fait le tour?
Oui, bien sûr. Quand j'ai quitté le cabinet EY, ça faisait 13-14 ans que j'étais là quand même. Je commençais à trouver le temps long, je vous avoue. Mais ma définition du succès à ce moment-là, c'était d'être associé chez EY, parce que c'est tout ce que j'avais connu.
Le parcours traditionnel.
Traditionnel. Et ça, je dis souvent aux jeunes aujourd'hui, les cabinets font ça excessivement bien. Ils vous convainquent que c'est ça la définition du succès. Et c'est nécessaire à leur modèle d'affaires, c'est pas une mauvaise chose. Mais quand je suis allée au CCRC, là aussi, c'est un chasseur de tête qui m'a appelé, et j'ai eu à peu près la même réflexion que je viens vous faire tantôt pour la présidence de l'Ordre. Chez EY, je commençais à trouver le temps long. Au CCRC, ça faisait 7 ans. On m'avait donné un mandat. J'avais aussi l'impression que j'arrivais à la fin de mon mandat. Donc oui, j'ai peut-être eu une certaine attention pour le poste de l'Ordre, malgré que je n'avais pas la prétention à ce moment-là de le faire. Oui, mon mari, c'est un homme exceptionnel qui m'a... Et j'ai ce qu'aujourd'hui, j'appelle un vrai partnership. Philippe a eu un père exceptionnel aussi, mais plutôt absent. Et donc, Philippe avait dit, « Bien, moi, si on fait une famille, parce que c'est ça qu'on voulait, on sera la notion d'interchangeabilité. » Donc, Philippe et moi, on est interchangeables pour les enfants, la gestion de la maison, la gestion des activités. Vous savez, c'est quoi, si vous avez des enfants, la gestion de la vie familiale, c'est compliqué. Et Philippe a dit, « On sera interchangeables. » Ceci étant dit, il a certaines choses sur lesquelles il a un droit de veto, j'ai certaines choses sur lesquelles j'ai un droit de veto. Et donc, si je dis à Philippe, tu dois aller mardi à 2 h porter Evelyne chez son amie Alexandra. Voici l'adresse. Tu apportes ce cadeau. Il ne va pas me demander pourquoi. Il va aller porter Evelyne chez Alexandra à 2 h avec le cadeau. Voilà, et une bonne fête. Donc, moi, je gère l'agenda des enfants. Lui, gère la maison. Et s'il me dit, Geneviève, il faut que tu fasses un chèque à telle compagnie pour 700 $ pour payer pour le service de gazon, je ne lui demande pas pourquoi. Je ne lui demande pas le contrat. Je fais un chèque et je poste. Bon. Alors, on a cette division des responsabilités qui a toujours très bien fonctionné et Philippe m'a toujours été mon fan numéro un. Vous voyez, ça, je suis très, très choyée. Je réalise que c'est pas tout le monde qui a ça.
Il va être ravi de vous écouter, en tout cas.
Ben, j'y dis souvent, alors il sait déjà.
Quelles sont les personnes ou les événements qui vous ont inspiré et aidé dans votre parcours, donc du départ jusqu'à votre poste actuel, bien sûr?
Bon. Alors, il y a ma petite professeure, là, Eleanor Verbin. D'ailleurs, quand je vous conte une autre histoire, parce que ça, c'est tellement cute. Quand j'ai été nommée présidente, mon université, donc où j'avais suivi le cours de Eleanor, m'a dit, écoute, t'es la première femme de l'Ordre, t'es une alumni d'ici, quand même, on voudrait faire une entrevue avec toi. Donc, je fais l'entrevue, c'est publié dans le magazine. Et quelques semaines plus tard, je vous jure, Florian, je reçois par la poste une lettre manuscrite à la main de son mari. Et son mari était CPA aussi, un alumni de l'université. Et il m'a dit, j'ai vu que tu as témoigné envers Éléonore dans ton entrevue. Elle serait tellement fière de toi. Et donc, je me suis retrouvée à aller dîner avec le mari de ma professeure à Montréal. Il avait 102 ans. En tout cas, c'est vraiment cute. Donc oui, elle m'a inspirée beaucoup. Et après, j'ai eu des gens qui m'ont confié des postes de leadership. Donc, quand je suis partie du cabinet, je suis allée au CCRC, ça a été Brian Hunt, donc un homme qui m'a dit, écoute, j'ai un nouveau poste, on a besoin de quelqu'un au Québec, quelqu'un qui parle français, moi, je connais rien à ça, je suis un unilingue anglophone, il faut tout bâtir au Québec. Est-ce que tu es capable de faire ça? Je dis, oui, je suis capable de faire ça. Il m'a fait confiance. Alain Dugal a fait la même chose quand je suis arrivée présidente de l'Ordre. Donc, j'ai eu des gens dans ma vie qui ont cru en moi puis qui m'ont donné des opportunités de briller. Une dame que j'ai eu le bonheur de rencontrer, c'est Michelle Obama. Et si vous m'aviez demandé un jour, tu vas rencontrer Michelle Obama, je vous dirais, vous êtes fou. Mais donc, elle est venue à Montréal parce qu'elle elle supporte toutes sortes de causes caritatives, dont l'éducation des jeunes femmes. Et mais là, c'est important, l'éducation puis la parité des femmes dans la profession. Donc, on a parrainé son événement et ça m'a donné quelques minutes avec elle. Et cette journée-là, elle allait rencontrer 150 personnes. Donc, j'avais pas trop d'attentes. J'allais lui serrer la main, c'est tout. Ah non, hein? Je m'approche d'elle. Elle a vu 200 personnes cette journée-là. Et elle me dit, « Ah oui, toi, t'es la jeune présidente de la profession. » J'ai dit oui. Elle dit, « T'es la première. » Donc, elle avait fait ses devoirs. Et elle me dit, j'ai dit oui, je suis la première. Elle dit, « Bon, où t'es rendue dans la parité ?» Homme-femme dans ta profession. Qu'est-ce que tu fais pour la profession, les jeunes femmes à l'école? Et elle avait fait ses devoirs. Je veux dire, elle n'avait aucune obligation de faire ça. Et donc, j'ai jasé bonne dizaine de minutes avec elle de tous les enjeux de notre profession. Une dame exceptionnelle que je me suis dit, mais elle a fait ça pour tout le monde qu'elle a rencontré aujourd'hui, c'est sûr. Et ça, ça m'avait vraiment impressionnée. Je dis, voilà une dame en pleine possession de ses moyens qui est une de nos fans. Puis je veux dire, qu'est-ce que Michelle Obama a? La comptabilité au Québec, c'est pas son monde. Mais ça m'avait vraiment marqué, d'avoir le bonheur de la rencontrer puis de voir qu'elle était si intéressée, sincèrement intéressée, pas juste parce qu'il fallait qu'elle fasse la potiche là, cette journée-là. Donc, ça a été un de mes très beaux moments, je dirais, dans ma carrière. Un grand privilège.
Vous avez pu faire une photo avec?
Oui! Puis elle est belle, la photo! Elle est belle, la photo! Je la mets dans mon bureau. D'ailleurs, oui, ça, c'est un beau moment marquant, un grand privilège, évidemment.
Maintenant, je voudrais avoir les plus grands défis que vous avez dû surmonter et qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences dans votre vie?
Mon plus grand défi, Florian, c'est de me gérer. Mon mari vous dirait ça, mon président de conseil vous dirait ça. Je pense que quand on est quelqu'un comme moi qui est passionné, qui a la profession, le métier, notre mission de servir l'intérêt public, la protection du public... Ça fait qu'on est très, très, très engagé et ça fait qu'on fonce, qu'on ose, qu'on veut faire bouger les choses. Et bon, ça peut être fatigant, faire ça. Et donc, je fais rire les gens. Je dis tout le temps que mon plus grand défi, c'est de gérer mon intensité. Et j'ai appris avec les années d'essayer un peu de me détacher, d'essayer de prendre ça moins intensément, tu sais, de vivre, d'avoir un peu de recul sur les choses. De me retenir des fois quand je veux intervenir, parce que des fois, il y a des mots ou des paroles ou des mails qu'on envoie qu'on n'aurait pas dû envoyer sur le coup, donc j'ai appris ça. Mais ça demeure un défi, me gérer, si je peux vous parler, ça demeure un défi. Ça, c'est un défi. Gérer le quotidien, ça a été un défi. J'ai écrit un article dernièrement pour la revue Première en affaires, qui est bon, pour le milieu des affaires des femmes au Québec. Et j'ai dit dans cet article, que je vous le redis, que c'est une illusion de penser et de vendre l'idée qu'on va un jour, comme femme, atteindre cet équilibre parfait de vie professionnelle et personnelle. Tu sais, c'est cette espèce d'équilibre où c'est des licornes et des arcs-en-ciel, là, ça n'existe pas. Et moi, je pense que c'est pas rendre service aux femmes de dire « vous devez atteindre ça » parce que c'est quelque chose qui, dans mon livre, n'est pas atteignable. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut apprendre à gérer le chaos. On gère le chaos au quotidien. Et dans le chaos, ce qu'il faut faire, c'est avoir des moments ou des choses, peu importe ce qui soit non négociable. Moi, je dis, ça nous prend une notion non négociable. Alors, ce qui est non négociable pour moi, c'est mes enfants. Mon mari, mes enfants. Donc, si, quand mes enfants étaient à l'école, le mardi, à 2 h, il y a un petit spectacle de danse à l'école de mes enfants, mais il faut que je sois là le mardi à 2 h. Et ça, c'est non négociable. Donc, que j'aille un rendez-vous avec un client, que j'aille un conseil d'administration, que j'aille n'importe quoi. Non, ce qui est non négociable, c'est mon petit spectacle de danse pour ma fille à 2 h le mardi après-midi. Il y a pour qui je fais des longueurs dans la piscine. Ça tombe le mardi. Le mardi, je fais mes longueurs dans la piscine. Donc, il faut avoir des choses dans notre vie qui sont absolument non négociables. Peu importe notre métier, peu importe les responsabilités ou les obligations qu'on a cette journée-là. Et après, ben faut s'entraider. J'ai eu Nounou longtemps à la maison. Philippe en a pris beaucoup. Moi, j'en ai pris beaucoup. On apprend à gérer le chaos. Mais il faut arrêter de penser Je pense que ça a été un défi longtemps de dire, mais je cherche cet équilibre parfait, travail, famille. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, cet équilibre-là. Il faut gérer le chaos puis trouver nos non-négociables. Si on se respecte comme personne dans nos non-négociables, ça va bien aller. Mais ça, c'est un grand défi.
Est-ce que vous pensez que quand on est jeune,
ouais.
jeune maman, ou
ouais.
c'est simple à un moment d'une carrière, des fois, comme vous dites, d'imposer des fois?
Oh non, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a toujours un double standard hein, pour les femmes. Je vous le dis, le standard, il est double pour les femmes. Donc, la recette à ça, c'est d'avoir un réseau autour de nous, un mari exceptionnel comme le mien, puis j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Moi, j'ai eu une nounou à la maison qui nous a aidés parce que Philippe voyageait, moi je voyageais, bon, on avait tous les deux des deux jobs importants, on s'est dit, allez à la, vous appelez la crèche ici, la garderie,
oui, la crèche,
qui
oui.
ferme à 17h, c'était pas pensable dans notre livre. Donc, j'ai eu quelqu'un à la maison 10 ans. Hein. 10 ans, je l'ai traité comme membre de ma famille, mes enfants la voient régulièrement encore. Il faut se doter d'outils qui vont nous permettre de gérer ce quotidien-là. Il faut avoir les moyens de faire ça. Moi, je pense que c'est quand même un gros sacrifice financier, hein, avoir une nounou 10 ans à la maison, que je payais chaque heure que je travaillais très bien. J'en conviens, c'est pas facile. Mais si on fait pas ça, si on n'a pas ce réseau autour de nous, et si on finit par toujours négocier nos non-négociables, on va être malheureux. Et moi, j'en ai vu des femmes qui font ça, qui essayent de gravir les échelons au prix de... Et à la fin, on est épuisé, puis on est malheureux. Donc, c'est pas la recette à suivre. Il faut apprendre à gérer le chaos.
Est-ce que votre famille, c'est aussi grâce à elle que vous en êtes là?
Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ma sœur. Moi, j'étais pas particulièrement bonne à l'école. Ma sœur était excellente à l'école, elle est devenue médecin. Moi, je n'étais pas tellement bonne à l'école, fait que je me disais, ouais, Sophie est meilleure à l'école, qu'est-ce que je vais réussir à faire? Mais toutes les deux, je pense qu'aujourd'hui, avec mon père qui était grand, évidemment, toutes les filles, parce que leur père est extraordinaire, mais oui, le mien était extraordinaire, mais ma mère aussi, ça a été des gens qui... Alors, aller à l'université, c'était pas une option de ne pas y aller. Les études supérieures, mon père avait comme but dans la vie de nous faire voyager partout dans le monde. Mon père vivait très, très modestement comme médecin spécialiste. Il dépensait sur deux choses, les livres, les voyages. Donc, j'ai eu le bonheur de voyager avec mon papa beaucoup. Alors oui, c'est des valeurs qui sont fortes, qui nous façonnent comme personne. Puis je pense que ma famille a beaucoup à faire. Je riais dernièrement parce qu'il y a 2-3 ans, l'Ordre des médecins au Québec, qui s'appelle le Collège des médecins, avait fait un... Mon père ne parlait pas très bien du Collège des médecins pendant qu'il était médecin. Et le Collège des médecins a fait une réflexion stratégique il y a quelques années parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème d'image. Le Collège des médecins n'était pas très... Bon, une institution à que les médecins ne portaient pas trop attention, un peu déconnectés de la profession. Et donc, ils ont dit, on aimerait ça, Geneviève, t'interviewer. On fait une grande réflexion stratégique au Collège des médecins. T'as fait cette réflexion-là à l'Ordre, on voudrait s'en inspirer. Alors, je suis rentrée au Collège des médecins, et là, je me dis, oh mon Dieu, mon père, qui était décédé dans le temps-là, de voir sa fille rentrer au Collège des médecins pour leur dire comment faire, gérer leur profession, je me suis dit, ouais, OK, tic, quand même, là, j'ai atteint un certain niveau, là. C'était quand même comique.
Est-ce qu'on peut passer maintenant sur la partie présent?
Oui.
Et j'aimerais vous poser la question, à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, j'ai réussi professionnellement, oh. Je suis fier de moi?
Ben, je pense est-ce que je pense que j'ai réussi professionnellement? Je pense qu'il faut rester humble puis avoir beaucoup d'humilité dans notre métier. C'est un grand privilège d'être dans mes fonctions. J'ai le sens du devoir accompli, je vais vous le dire comme ça. Plutôt que du succès, j'ai, avec le conseil d'administration, le conseil m'a donné un mandat. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses rayonner la profession, il faut mieux travailler avec le gouvernement. Bon, le conseil m'a donné une mission. Et je pense qu'après 8 ans et demi, je regarde ce travail-là et j'ai le sens du devoir accompli, de la mission. Moi, j'ai l'impression que j'ai rempli ce que le conseil m'avait donné. Donc oui, c'est sûr qu'on tire une certaine satisfaction. Est-ce que ça veut dire avoir du succès? Je pense qu'avoir du succès, c'est un peu... c'est une notion qui est floue. Mais est-ce que j'ai le sens que j'ai rempli mon mandat, que j'ai donné du meilleur de moi-même pour réaliser cette mission-là? La réponse est oui. Quand j'ai rencontré Michelle Obama, je me suis dit, ouais, ça, c'est quand même pas mal. Mais après, je pense qu'il faut rester humble puis dire, ben oui, j'ai fait mon petit bout de chemin, quelqu'un d'autre le continuera, puis maintenant, on trouvera une autre façon de contribuer. Après, quand j'aurai d'autres fonctions, éventuellement, un jour.
Vous avez quand même de l'humilité, hein, si je remarque bien sur
mais
mes...
c'est important. C'est important.
Mes notes, vous êtes quand même la première femme à occuper ce poste, quand
ouais,
même.
Donc, ça avait eu une belle attention, ça, quand même, médiatiquement. La profession s'est unifiée hein, au Canada.
Oui. Récemment.
Donc, l'équivalent de vos experts comptables et commissaires aux comptes ont été unifiés en 2012. Et c'était donc la première fois qu'une femme avait occupé ses fonctions. Et c'était un virage quand même assez important par rapport à mon prédécesseur. Mais le fit, quand je m'étais assis avec Alain Dugal qui m'avait expliqué où l'ordre s'en allait et le fit avec moi, bon, j'avais finalement compris pourquoi, oui, je pense que c'était un bon choix de, avec toute l'humilité que je veux de faire de prendre cette décision-là. Que je sois une femme, un homme aurait aussi bien fait. J'avais la parole facile. Bon, j'avais peut-être les compétences que l'ordre cherchait à ce moment-là. Mais c'est avec quand même beaucoup de fierté hein, que j'ai pris ce poste-là parce que maintenant, 50 % de la profession est féminine hein, au Canada. Donc, c'est important d'avoir... Moi, ce qui est important, c'est de ne pas vivre dans ma tour d'ivoire puis que les professionnels, le public, se reconnaissent dans moi, que je sois une bonne porte-parole. Et donc, ben, tant mieux si c'est la première fois que c'est une femme qui pouvait faire ça.
Et votre mari et vos enfants, est-ce qu'ils sont fiers de vous?
Ben oui, je pense que oui. Mon mari, certainement. Bien sûr. Ma fille, ma plus vieille fille, alors, ne sera zéro comptable.
Elle s'en va en science. CPA.
Alors, elle s'en va en génie aérospatial. Ça, c'est mon enfant très, très intello. Mais oui, je pense que pour les enfants, elles sont très fières. Elles voient bon, le grand privilège d'avoir mes fonctions, de pouvoir venir discuter avec vous, c'est un grand privilège de voyager partout dans le monde. En même temps, je pense que pour des jeunes filles, donc j'ai deux filles, Laurence, qui va être ingénieure aérospatiale éventuellement, Evelyne, que j'essaye de convaincre, peut-être en comptabilité ou en droit, en même temps, c'est intimidant. Je pense que pour des enfants, de voir leur maman qui a quand même bon, assez bien fait dans la vie, pour des jeunes femmes, ça peut être un peu intimidant. Donc, j'essaie de rester bien humble et de les respecter dans le choix qu'elles feront de leur carrière. Laurence ne sera jamais expert comptable, c'est une scientifique, c'est parfait. C'est un métier que je découvrirai parce qu'on n'a aucun ingénieur dans notre famille. Donc, je ne peux même pas l'aider à la placer, à y trouver une job. Je ne connais rien là-dedans. Evelyne, bon, peut-être je pourrais l'aider un peu, mais je pense que c'est important pour nos enfants de les respecter dans leur choix, peu importe les choix que nous, on a fait.
J'ai besoin que vous m'aidiez, c'est sur l'organisation.
Oui.
Vous m'avez dit, alors je m'occupe de l'ordre.
Oui.
J'interviens aussi à la FIDEF, si je me... ouais, on n'a pas trop parlé.
Oui, je contribue à la FIDEF depuis plusieurs années. Donc, c'est CPA Canada qui maintenant occupe le siège à la FIDEF. Mais le Québec, c'est la francophonie hein, en Amérique du Nord. Donc, c'est important de garder le lien. Et je pense que pour le Québec, de contribuer à l'essor de la profession dans le monde francophone, c'est vraiment important. Je pense que le Québec inspire beaucoup les Français, mais aussi la profession en Afrique du Nord-Ouest, donc dans nos pays francophones. Alors, c'est important pour moi de continuer à contribuer à la FIDEF, donc que ce soit des ententes de reconnaissance mutuelle avec nos collègues francophones, d'offrir... Dernièrement, j'ai fait une entente avec la Tunisie qui leur permet d'avoir accès à portion de notre catalogue de formation pour donner des opportunités à nos collègues dans le monde entier de se développer. Donc, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut absolument continuer ces efforts-là. Donc, oui, je dirige l'ordre, je m'occupe de la FIDEF.
Vous avez votre vie personnelle. Comment vous faites pour organiser tout ça? C'est quoi la méthode de Geneviève?
La méthode de Geneviève, c'est l'interchangeabilité avec Philippe. Ça a été toujours comme ça. Philippe et moi, on peut se diviser toutes les tâches de la maison, toutes les tâches des enfants, toutes les tâches d'entretien, avec chacun nos sphères d'expertise, comme je vous disais tantôt. Mais c'est aussi d'avoir des non-négociés. Et donc, à moins de devoir prendre un avion le samedi soir pour venir en France, j'ai une maison de campagne le samedi, dimanche, je suis à ma maison de campagne. Je suis pas maquillée, je suis pas habillée, je suis pas Madame la Présidente. Et je passe du temps avec mes enfants, mon mari, mon chien. Ça, c'est ma façon un peu de décrocher, les longueurs dans la piscine la semaine. Donc, c'est de planifier dans nos agendas. J'ai jamais rien à mon agenda le vendredi. Chantal, mon adjointe. L'autre recette, c'est avoir une adjointe exceptionnelle, qui est Chantal pour moi. Et c'est d'être organisé. Florian, il faut être organisé là, jusqu'au cou. C'est pas facile, mais ça a été ça ma méthode. C'est d'avoir un plan de vie avec Philippe très clair, hyper organisé. C'est sûr que là, les enfants sont beaucoup plus autonomes, donc c'est plus facile avec le temps. Je vous l'avoue, là, j'ai pu la nounou pendant longtemps. Ça a été d'avoir de l'aide à la maison. Mais ça, c'est d'avoir un partenariat. Puis je trouve que les femmes, des fois, n'ont pas ce privilège-là d'avoir des hommes dans leur vie qui, malgré toutes leurs bonnes intentions, ont des certaines attentes que, oui, tu vas travailler, mais en passant, les enfants, c'est ta responsabilité, puis les repas, c'est ta responsabilité. Il faut avoir un mari ou un conjoint dans notre vie qui va respecter le fait qu'il faut être interchangeable. Il faut pouvoir se diviser la responsabilité de façon égale.
Il y a quand même eu des moments peut-être un peu durs ou difficiles à gérer tout ça? Ou ça s'organise tranquillement?
Non, ça s'organise, mais oui, c'est difficile. Je dis pas que c'est facile de faire ça. C'est gérer le chaos, c'est difficile. Oui, il y a des années où c'est un peu intense, là, où les heures sont importantes, ou surtout quand on est en début de carrière, puis on a un peu ce double standard, les femmes, qu'il faut toujours travailler plus fort, plus être plus belle, plus fine et tout, là. Fait que je dis pas que c'est facile, mais à la base, il faut avoir les outils autour de nous, puis il faut prendre des décisions très délibérées d'organiser nos vies en conséquence. Et ce que j'ai fait avec Philippe, et ça a fonctionné, mais est-ce que c'est facile? Non. Il faut gérer, hein, plus rien. Il faut apprendre à se gérer.
Et justement, je voudrais avoir votre conseil pour la nouvelle génération. Quel conseil vous me donneriez, ou que vous donneriez plutôt aux femmes de la nouvelle génération qui veulent suivre le même chemin que Geneviève Motard?
Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Arrêtez de se poser toutes les questions. Un, arrêtez de chercher cet équilibre parfait de vie familiale. Un, ça n'existe pas. Deux, il faut se connaître et se faire confiance. Mais se connaître, moi, j'ai appris à me connaître sur le tard. J'aurais aimé ça avoir au début de ma carrière. Vous savez, là, vous allez dire, c'est connu maintenant, mais tous les tests là, de personnalité, dans quoi vous êtes bonne, dans quoi vous êtes moins bonne. Il faut apprendre à se connaître très, très bien comme personne et après prendre des fonctions. Parce que tout le monde va dire dans la vie, vous avez des choses que vous faites bien, les choses que vous faites moins bien, bien, il faut travailler là-dessus. Non, il ne faut pas travailler sur ce qu'on ne fait pas bien. Il faut travailler sur ce qu'on fait bien. Donc, moi, je dis ça aux femmes. S'il y a des choses que vous savez que vous n'êtes pas particulièrement bonne, toutes sortes de choses dans lesquelles on n'est pas particulièrement bonne, mais trouvez-vous un boulot où vous ne ferez pas ça. Moi, je ne suis pas particulièrement bonne à je suis pas patiente. Je ne suis pas particulièrement bonne à aller beaucoup dans le détail pour des budgets, bon, j'ai une CFO à l'ordre qui est extraordinaire. Ça, c'est son quotidien. Donc, il faut se trouver des... Apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir dans quoi vous êtes naturellement bonne, naturellement moins bonne, et là, choisissez des jobs dans quoi vous allez être naturellement bonne, c'est ça que vous allez faire. Puis arrêtez d'essayer d'améliorer ce que vous n'êtes pas bonne, là. Oui, il faut faire un minimum, là. Je vais me faire trucider, là. Tout le monde va me dire, mais non, il faut travailler sur nos défauts. Oui, mais non. Il faut surtout miser sur nos qualités. Et donc, c'est pas un regret. Ce que j'aurais voulu faire différemment, puis c'est mon conseil aux jeunes femmes, apprenez-vous à vous connaître, faites-vous confiance, puis osez, ne vous posez pas trop de questions.
Du coup, pendant cette interview, je me posais des questions. Est-ce qu'il y a encore ces questions maintenant d'égalité homme-femme ou pas au Québec, ou maintenant c'est rentré dans les mœurs?
Oui et non, je vous dirais.
Sur le métier de CPA, hein,
CPA, je pense qu'on est rendu là. Il y a parité dans la profession, donc on a 42 000 CPA au Québec, on est à la parité. Est-ce qu'on est à la parité parfaite dans les postes de direction, postes d'associés? Alors ça, c'est non, il reste encore du travail à faire. Mais savez-vous, le métier pendant longtemps n'a pas changé parce qu'il y avait assez de candidats hommes-femmes qui rentraient dans la boîte. Vous savez, la boîte carrée, là, le modèle de ce qu'était le CPA typé. Mais là, ça change. On est tellement en pénurie de main-d'œuvre qu'il n'y a plus assez de candidats pour rentrer dans la boîte. Et donc, finalement, par la force des choses, le métier change parce qu'ils doivent avoir attiré des profils différents dans la profession. Et ça, je pense que c'est à tout l'avantage des femmes. Là, ce qu'il faut faire, je pense qu'à l'accès à la profession, c'est réglé. Dans la profession, c'est réglé. Là, le travail qu'il faut faire, c'est les postes de direction pour s'assurer que les modèles changent pas juste à l'entrée de la profession, mais en haut aussi, dans les positions de pouvoir. Donc, ça, c'est un de mes prochains dossiers.
Je voulais avoir votre avis pour vous. Hein. C'est quoi un CPA? C'est quoi l'archétype du CPA pour vous, aujourd'hui?
L'archétype du CPA. Je pense pas qu'il y en a... Moi, j'ai goût de vous dire qu'il y en a plusieurs, mais c'est un métier où on a des valeurs communes. Je pense que et c'est quelqu'un qui a les valeurs suivantes. Je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs de service à l'autre, c'est-à-dire d'altruisme, je veux dire comme ça. On est CPA parce qu'on veut accompagner les familles, on veut accompagner les gens, les gouvernements, à prendre des meilleures décisions. Donc, on fait ça pour l'autre. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'altruisme, qui a l'aide à l'autre, qui a un devoir de jouer un rôle sociétal. Je pense qu'on est un des seuls métiers dans le monde où ça prend des CPA pour changer le monde. Les gens disent « les CPA vont changer le monde ». C'est vrai, les CPA vont changer le monde. Ça prend des CPA. Tout, à la fin, doit être mesuré, calculé. Tout revient souvent à une question de sous, d'argent. Et quel autre métier peut être au centre de tout ça? Donc, ça prend l'archétype d'un CPA, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il peut changer le monde avec des chiffres, avec des analyses, avec des moyens de mesurer, de calculer et de... Après ça, de synthétiser et de vulgariser tout ça au public. Moi, je pense que c'est aussi quelqu'un qui a des valeurs d'humilité. Peut-être trop des fois. Je pense que, vous savez, les avocats font très bien ça. Ils se mettent un peu sur toutes les tribunes. Bon, d'autres métiers le font, les infirmières, les médecins, les CPA, on fait moins ça. Je pense qu'on le fait mieux maintenant. De l'humilité, on est quand même une profession qui a beaucoup à donner au public. Donc, c'est ça, un CPA, c'est quelqu'un qui est humble, mais qui veut contribuer, qui est au service de l'autre, puis qui est convaincu qu'il peut changer le monde.
On va aller sur le futur maintenant.
Ouais.
Quels sont vos projets pour cette année?
Oh, mon Dieu, cette année. On a des enjeux, comme toutes les professions, on a des enjeux d'attractivité. Donc, sur le plan professionnel, on a des campagnes qu'on doit faire pour essayer d'adresser nos enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Mes équipes me disent que ça commence à aller mieux là, dans nos programmes. Donc, essayer vraiment de continuer à faire rayonner la profession. On a des campagnes pour recruter dans les écoles secondaires. Il y a 350 écoles secondaires au Québec. On en a fait 300 quelques l'année passée. Donc, adresser l'enjeu de l'attractivité, ça, c'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment mon enjeu numéro un. Ensuite, comment aider la profession à se transformer dans l'art numérique, l'intelligence artificielle. Bon, on a un peu moins les défis de la profession française, c'est-à-dire que chez nous, c'est plus une profession qui est déjà conseil, fait que c'est comment intégrer ces outils dans la transformation de la profession. On a tout un changement de législatif au Québec sur la modernisation qu'on appelle du système de toutes les professions, donc comment l'Ordre va contribuer. Alors, dans la prochaine année, là, c'est ça nos grands dossiers, pénurie de main-d'œuvre, attractivité, notre nouveau programme d'agrément, comment on devient CPA, on a tout refait, notre grille de compétences, justement pour se mettre au diapason des nouvelles compétences. Donc, ça, il faut travailler là-dessus. Et le chantier de modernisation du système professionnel. Donc, beaucoup de pain pour la planche, hein, la prochaine.
Il y en a pas mal.
Ouais.
Et moi, je voudrais avoir votre futur à vous dans 10 ans. Vous êtes où dans 10 ans, Geneviève?
Dans 10 ans, je suis en Nouvelle-Zélande.
Ah.
Je vais vous faire rire, hein? Mon mari est kiwi, donc mon mari est néo-zélandais. Et on a fait le plan de vie dans la dernière année, ça s'est concrétisé, qu'un jour on vivrait quelques mois par année en Nouvelle-Zélande. Alors, parce que c'est un pays extraordinaire. parce que notre hiver, c'est leur été. Donc, vous avez compris que je serai partie de novembre à avril. Et mon but, ça serait de redonner, de trouver une façon de redonner. Donc, personnellement, je serai en Nouvelle-Zélande à quelque part avec Philippe quelques mois par année. Professionnellement, c'est une façon de redonner à la profession. J'ai pris mon cours dernièrement pour être administratrice de société. J'ai déjà donné le cours, là, c'était drôle, j'étais assise de l'autre côté de la table. Mais bon, j'ai pris le cours pour être administratrice de société et que ce soit dans des sociétés cotées, privées, des OSBL, j'en fais déjà un petit peu, mais mes fonctions m'empêchent d'en faire plus. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai des fonctions différentes, ben, je pourrais redonner plus puis siéger sur quelques conseils et passer mes hivers à jardiner en Nouvelle-Zélande. C'est ça mon plan.
Ben, c'est un beau programme. Pour finir l'interview, je voudrais vous proposer un jeu. Ça s'appelle le jeu Confession intime. C'est pour qu'on apprenne à mieux vous connaître. Je vous pose des questions et vous me répondez juste par plus ou moins.
Plus ou moins. OK, je vous écoute.
Est-ce que vous travaillez plus ou moins de 50 heures par semaine?
Plus.
Au niveau des amis, est-ce que vous avez plus ou moins de 10 amis proches?
Moins.
Au niveau du sommeil, est-ce que vous dormez plus ou moins de 8 heures par nuit?
Moins.
Prenez-vous plus ou moins de 5 semaines de vacances par an?
C'est 5 semaines, à peu près.
Et au niveau de la retraite, vous envisagez de la prendre à plus ou moins de 65 ans?
Oh, beaucoup moins.
Vous êtes la seule à avoir dit ça.
C'est vrai?
Oui.
Mais la retraite, ça dépend ce qu'on dit par la retraite.
Voilà, c'est ce que je voulais
dire. La retraite, c'est de ne pas occuper des fonctions où je travaille plus de 50 heures par semaine. Mais ça ne veut pas dire arrêter, ça veut dire trouver une façon de contribuer différemment, mais peut-être avec un rythme un peu moins intense.
Eh bien, je vous remercie, Geneviève.
Ça fait grand plaisir.
On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure à un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et récits captivants sur le podcast « Pourquoi je suis expert comptable ?»